Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 2 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président américain Donald Trump et la première dame sont en quarantaine après avoir contracté le coronavirus. La Maison-Blanche procède au traçage des cas contacts. De nombreux dirigeants dans le monde ont souhaité un bon rétablissement au couple présidentiel. Les Maliens attendent la formation du gouvernement et la levée des sanctions. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, conclut à Rabat une tournée dans la région du Maghreb. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé que son épouse et lui-même ont été testés positifs au coronavirus. Le président américain entre ainsi en quarantaine et suspend provisoirement sa campagne. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Le président Trump a tweeté très tôt ce matin que la première dame et lui-même ont été testés positifs au COVID-19, ajoutant « Nous allons immédiatement commencer notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons nous en sortir ensemble. » 11 minutes plus tard, le médecin de la présidence, Sean Conley, confirmait l'information dans un communiqué, tout en précisant que Trump et son épouse se portent bien et prévoient de rester chez eux à la Maison-Blanche durant leur convalescence. Il a ajouté que le président continuera à exercer ses fonctions sans interruption pendant sa récupération. Plus tard, la première dame s'est aussi exprimée dans un tweet sur son compte officiel. Le président et moi sommes en quarantaine à la maison après avoir été testés positifs au COVID-19. Nous nous sentons bien et j'ai reporté tous les engagements à venir. Assurez-vous de rester en sécurité et nous nous en sortirons ensemble. Selon un responsable de la Maison-Blanche, la plupart des prochains rendez-vous du président ont été annulés. Le vice-président Mike Pence, quant à lui, a été testé négatif ainsi que son épouse. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et son épouse ont également été testés négatifs.
Le vice-président Mike Pence a été testé négatif. Monsieur Pence souhaite un bon rétablissement au Trump, a déclaré son porte-parole Devin O'Malley. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a aussi été testé négatif. Par ailleurs, la juge Amy Coney Barrett, nommée récemment par Donald Trump à la Cour suprême, est testée tous les jours et négative, a indiqué la Maison-Blanche. Le président Donald Trump est ainsi contraint de faire une pause dans sa campagne à quelques semaines des élections. Son rival démocrate Joe Biden lui a souhaité un prompt rétablissement ainsi qu'à la première dame Melania sur Twitter. Les Trump et les Biden étaient tous à Cleveland dans l'Ohio mardi soir dans la salle du premier débat pour le scrutin du 3 novembre. Et Joe Biden a annoncé avoir été testé négatif. Au plan international, plusieurs dirigeants ont souhaité au président américain Donald Trump et à son épouse Melania un prompt rétablissement. Le point avec Nani Talani.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a adressé ses meilleurs vœux au président Trump et à la première dame Melania pour un rétablissement. Pareil pour le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a souhaité au couple un rétablissement complet et rapide. Le président russe Vladimir Poutine ajoute « Je suis convaincu que votre vitalité, votre bonne humeur et votre optimisme vous aideront à faire face à ce dangereux virus. » Le premier ministre britannique Boris Johnson, qui a lui-même passé 3 nuits en soins intensifs en avril après avoir contracté le coronavirus, a tweeté « Mes meilleurs vœux au président Trump et à la première dame. J'espère qu'ils auront tous les deux un prompt rétablissement. » Angela Merkel, la chancelière allemande, Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, et Narendra Modi de l'Inde ont aussi exprimé la même empathie et la même solidarité au président Trump et son épouse pour qu'ils se remettent vite et retrouvent la bonne santé. En Afrique, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et l'égyptien Fatah al-Sissi ont aussi souhaité un prompt rétablissement au couple présidentiel américain.
Le Mali est dans l'attente de la levée de l'embargo depuis que la junte a modifié les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, dans la charte publiée au journal officiel, selon laquelle il ne peut plus remplacer le président. La seconde attente est la formation du gouvernement de transition. Le blocage serait entre le premier ministre Mokhtar Ouane et les militaires. Kassim Traoré nous en dit plus.
C'est la clarification des missions du vice-président de la transition qui avait bloqué la publication de la charte de la transition. Depuis hier, c'est chose faite. Dans l'article 7 de la charte, le président de la transition est secondé par un vice-président. Il est désigné suivant les mêmes conditions que ce dernier. Le vice-président est chargé des questions de défense et de sécurité, ce qui veut dire qu'il ne peut pas remplacer le président en cas d'empêchement comme l'avait souhaité la CEDEAO. Avec cette clarification, les Maliens attendent la levée de l'embargo contre le Mali qui est en vigueur depuis le 18 août 2020, date du coup d'État. L'autre attente à Bamako, c'est la formation du gouvernement de transition. Il semble que les militaires ont été pris de court en pensant facilement passer cette étape avec leur liste gouvernementale. Il se trouve aussi que le président et le premier ministre ont également leur propre projet s'agissant de l'attelage gouvernemental, sa composition et le processus. En entendant le dénouement et la décantation de cette situation, un vrai match se déroule actuellement au sommet de l'État. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, les collèges et lycées publics vont rouvrir à partir du 12 octobre, a annoncé le ministre de l'Éducation, Adamu Adamu. Le pays avait fermé toutes ses écoles en mars afin d'empêcher la propagation du coronavirus. En septembre, les autorités ont annoncé la réouverture des classes préparant des diplômes. Le nombre de nouvelles infections par jour est redescendu à 200, a dit le ministre. En Afrique du Sud, les soldats qui avaient été déployés pour faire appliquer les mesures anti-Covid-19 dans le pays le plus touché d'Afrique sont rentrés dans leurs casernes après une baisse des cas détectés, a annoncé l'armée. Au début des mesures de confinement en mars, le président Cyril Ramaphosa avait décidé de déployer plus de 2800 soldats pour faire respecter ces mesures. Et un mois plus tard, quelques 73 000 soldats avaient été déployés. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a conclu ce vendredi à Rabat une tournée pour renforcer la coopération militaire avec les pays du Maghreb sur la lutte contre le djihadisme et la sécurité en Libye et au Sahel. Le point avec Bagassi Koura.
Comme à Tunis mercredi, le chef du Pentagone a souligné aujourd'hui à Rabat un accord décennal de coopération militaire avec le Royaume. Cette feuille de route réaffirme clairement que notre alliance est forte et faite pour durer, a souligné Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. Le Maroc accueille chaque année African Lion, l'exercice militaire le plus important du continent, sous la houlette du commandement militaire américain pour l'Afrique. Les États-Unis sont le premier fournisseur d'armement au Maroc avec avions de combat, navires, chars et véhicules blindés. M. Esper a aussi souligné hier un accord de coopération militaire avec l'Algérie voisine, qui était pourtant un client majeur de la Russie. La dernière étape de sa tournée au Maghreb coïncide avec la reprise ce soir du dialogue entre des parlementaires libyens des deux camps rivaux à Bouznika, dans la région de Rabat. En décembre dernier, l'instabilité en Libye et au Sahel avait été au centre d'une visite à Rabat de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais pour le Nagorno-Karabakh ont continué ce vendredi avec des frappes azerbaïdjanaises sur Stepanakert, la principale ville de la région séparatiste. Bakou a jugé que l'Arménie devait se retirer du territoire afin d'arrêter l'escalade au lendemain d'un appel à la fin des hostilités des présidents américains, russes et français. En Russie, la rédactrice en chef du site d'information indépendant Kosa Press, Irina Slavina, est décédée après s'être immolée par le feu après une opération de la police chez elle dans le cadre d'une enquête visant un mouvement d'opposition. Une vidéo sur les réseaux sociaux la montre s'immolant par le feu sur un banc en face du quartier général de la police à Nijni Novgorod. L'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Irlande du Nord a averti ce vendredi que le projet de loi britannique revenant partiellement sur l'accord de Brexit pourrait menacer les négociations commerciales entre Washington et Londres ainsi que la paix en Irlande du Nord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par John Lyndon.
Le Sénégal n'ira pas sur les marchés financiers internationaux pour financer son plan de relance économique, d'après Amadou Ott, ministre de l'économie. Il a présenté hier une nouvelle orientation dénommée « Programme d'action prioritaire ajusté et accéléré », disant que son pays va se contenter du financement octroyé par les partenaires au développement, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement. L'Ouganda risque de perdre jusqu'à 287 millions de dollars de recettes sur 25 ans dans le cadre du méga projet pétrolier mené par le groupe français Total en Afrique de l'Est à cause de sa convention fiscale avec les Pays-Bas. D'après l'ONG Oxfam, ce projet mené par Total et la compagnie chinoise Sinopec prévoit l'exploitation des gisements découverts en 2006 en Ouganda dans la région du lac Albert et la construction d'un oléoduc de 1440 km passant par la Tanzanie. Le taux de chômage aux États-Unis a baissé un peu plus qu'attendu en septembre et s'établit à 7,9% contre 8,4% auparavant. Ce rapport mensuel sur l'emploi est le dernier à être publié avant l'élection présidentielle du 3 novembre.
À présent, les sports présentés par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à vous tous amis des sports. Nous commençons par le football avec cette mauvaise nouvelle de Dani Carvajal. L'arrière droit du Real Madrid a subi une blessure au ligament latéral interne du genou droit. Le club champion d'Espagne en titre ne précise pas la durée d'absence du joueur, se limitant à dire qu'il est en attente d'évolution. Mais selon la presse espagnole, celle-ci pourrait être d'environ 2 mois. L'international espagnol va manquer le match de championnat dimanche contre les Levante, en plus des rencontres de l'Espagne la semaine prochaine contre le Portugal, la Suisse et l'Ukraine. Dani Carvajal manquerait également les débuts de son équipe en Ligue des Champions à la fin du mois. Et sur le marché des transferts, le Barça exclut un départ de l'ailier français Ousmane Dembélé, annoncé par certains médias à Manchester United à 3 jours de la clôture du marché des transferts lundi, a affirmé le directeur sportif du FC Barcelone, Ramon Planes, lors de la présentation de la dernière recrue Blaugrana, le jeune arrière droit Serginho Dest. L'attaquant brésilien Carlos Vinicius, meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, va être prêté 1 an à Tottenham par le Benfica Lisbonne, a annoncé jeudi soir le club portugais. Les Spurs de José Mourinho paieront 3 millions d'euros pour le prêt du buteur de 25 ans et disposeront d'une option d'achat fixée à 45 millions d'euros, de laquelle sera déduite le montant du prêt si l'option est levée, a expliqué Benfica dans un communiqué aux autorités boursières. Direction Éthiopie pour parler de l'athlétisme. Eh bien, la ville des coureurs de fond tente de distancer la pandémie. Il y a 8 mois, Anna Aougichou, qualifiée à 16 ans pour une compétition nationale sur 400 mètres, se voyait déjà une nouvelle étoile montante de la course éthiopienne avec en tête la trajectoire de Kenenisa Bekele, une des idoles de leur ville Bekoji. Mais cette trajectoire a été stoppée par la pandémie de coronavirus qui a obligé les autorités à annuler l'épreuve et à instaurer un état d'urgence qui, entre autres, restreignait les conditions d'entraînement des athlètes. À propos, Dokken Enissa Bekele a déclaré forfait pour le marathon de Londres où il devait affronter dimanche le recordman du monde de la spécialité, le Kenyan Eliud Kipchoge. L'Éthiopien est blessé à un mollet, triple champion olympique et quintuple champion du monde sur la piste. Bekele possède le deuxième temps de l'histoire sur la distance des 42 195 km.
Merci beaucoup Eric pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Togo, la nouvelle première ministre Victoire Dogbé-Tomega était devant les députés ce vendredi pour le discours de politique générale. Elle était accompagnée de son gouvernement rendu public jeudi, qui compte 33 ministres, dont 10 femmes, y compris une ministre de la Défense, Essozimna Marguerite Niakade. Depuis 2009, le ministère des Armées était rattaché à la présidence. La réaction des Togolais sur ce nouveau gouvernement avec Kay Lawson à Lomé.
Au prime abord, les Togolais s'attardent sur la nomination d'une femme à la primature, une première dans l'histoire du pays. L'autre surprise est la détention du portefeuille des armées par une femme et une apparente jeunesse de cette nouvelle équipe.
J'ai déjà une très bonne impression. Maintenant, le reste est de voir ce gouvernement composé d'hommes et de femmes jeunes, comment est-ce qu'ils pourront vraiment gérer leur portefeuille pour montrer à tout le monde que la jeunesse et que les femmes sont capables.
Si le chef de l'État a osé permettre à ce que les femmes et les jeunes atteignent 35% donc du gouvernement, c'est sûr que les prochaines politiques qui vont être définies vont tenir compte des jeunes, vont tenir compte des femmes pour que nous puissions avoir un pays référence.
Un point fort à relever est la meilleure représentativité des femmes dans ce nouveau gouvernement par rapport au précédent. Le ministère de la Planification, qui est désormais rattaché à la présidence de la République, n'est pas compris.
Le ministère des Armées, longtemps rattaché à la présidence, vient d'être pourvu. Réaction du député Diary Tama, militaire reconverti et ancien élève de l'école militaire de Saint-Cyr.
Autrefois, on avait l'impression que l'armée était bunkerisée et n'a pas de représentants au sein du gouvernement. Cette fois-ci, c'est une chose faite. Maintenant, sans aucun doute qu'on verra à l'usage l'efficacité de notre armée par rapport aux menaces sécuritaires et par rapport même à sa relation avec le reste de la nation va être améliorée en ayant cette fois-ci un ambassadeur qui reste quand même une femme.
Pour les Togolais, la nature du gouvernement leur importe peu. Ils ont des attentes qu'ils espèrent être comblées par la nouvelle équipe gouvernementale.
Nos attentes sont que vraiment ces jeunes dans le gouvernement, ces femmes dans le gouvernement, puissent être vraiment impliquées dans le diagnostic, dans l'élaboration des politiques et des stratégies de développement du pays. Nous voudrions croire que ces personnes seront à l'écoute des populations, effectivement, pour être promoteurs d'une gouvernance qui démontre l'écoute du peuple, d'une gouvernance pour le peuple. Nous verrons les changements s'opérer dans tous les secteurs du fait que les jeunes et les femmes aient été impliqués dans notre gouvernement.
Ce nouveau gouvernement est le premier du quatrième quinquennat de Faure Gnassingbé après sa réélection le 22 février dernier à la présidence togolaise. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le dépôt des candidatures à la présidentielle du 22 novembre se poursuit avec notamment celui du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, ce vendredi. Kadré Désiré Ouédraogo, ancien premier ministre de Blaise Compaoré, et Eddy Kombouaggo, président du parti CDP, sont parmi les favoris des candidats de l'opposition. Arzouma Compaoré a joint Eddy Kombouaggo à Ouagadougou, qui revient sur les enjeux de ces élections en ce qui le concerne en particulier.
C'est l'une des rares fois où nous avons autant de partis politiques assez structurés et qui voient la conquête du pouvoir. Il vous souviendra que depuis les années 60 jusqu'à nos jours, Il n'y a jamais eu au Burkina Faso un passage de témoin d'un président démocratiquement élu à un nouveau président démocratiquement élu. Tous les passages, tous les changements de président se sont passés dans la douleur parfois, et parfois dans la violence. Nous ne souhaitons pas que cela arrive. C'est pourquoi nous sommes très regardants dans l'organisation des élections. Nous avons eu au début à dénoncer un peu le fait que le gouvernement n'est pas de la bonne volonté parce que à l'enrôlement des électeurs, une bonne partie de la diaspora a été écartée. Sur un potentiel de 2,5 millions, nous n'avons personne à l'extérieur du Burkina. Nous n'avons pu enrôler que 23 000. Nous sommes loin du compte. Mais à l'intérieur, nous avons également eu peur que dans les zones à haut risque, où il y a les attaques terroristes, on ne puisse pas enrôler. Mais les efforts ont été faits pour que au moins toutes les communes rurales, les chefs-lieux des communes rurales puissent être enrôlés. Nous avons un fichier qui vaut ce qu'il vaut. Nous avons espéré que le fichier sera audité, qu'on aura le pot afin d'aller aux élections d'une manière apaisée.
Beaucoup ont espéré un changement concret avec justement l'insurrection. Aujourd'hui, vous êtes quelque part la continuation de cet ancien régime. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent cela?
Non, nous ne sommes pas seulement la continuation. Nous continuons ce qui est positif. Parce que c'est illusoire de dire que tout ce que Blaise Compaoré a fait est négatif. Il faut s'appuyer sur ce qui est positif et tirer une leçon de ce qui a été négatif. Les populations savent que ce qui se passe sous Blaise Compaoré est meilleur que ce qui se passe actuellement. Mais je me présente comme le candidat de la rupture générationnelle, la rupture par la vision, par la manière de gouverner, par l'intégrité. Nous ne venons pas au pouvoir d'abord pour nous venger. Non, nous ne voulons pas nous venger. Nous voulons leur donner l'exemple que nous pouvons pardonner et reconstruire ensemble. Nous ne venons pas au pouvoir pour nous enrichir, mais pour servir le peuple. Voici ce qui distingue le candidat Edi Kombouégo des autres.
Edi Kombouégo est président du parti CDP au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
L'autorité nationale des élections centrafricaines a envoyé une mission à Washington pour une opération d'enrôlement des centrafricains de la diaspora. Des centrafricains venus des différents États américains ont pris d'assaut les locaux de leur ambassade dans la capitale américaine pour s'inscrire sur la liste électorale en vue de la présidentielle prévue le 27 décembre. Firmin Koyaweda s'est entretenu à ce propos avec le rapporteur général des opérations, Jean-Désiré Batangombe.
Tout s'est déroulé dans de bonnes conditions, dans une ambiance, je pourrais dire, fraternelle, de paix, parce que tous les Centrafricains qui sont venus se faire enregistrer, ils ont observé ce que notre devise recommande, la dignité. Les documents que nous avons demandés, notamment les pièces d'identité ou bien un acte de naissance, tout le monde a donné les documents en paix et sans trop de troubles.
Nous voyons une forte affluence des Centrafricains venus de plusieurs États pour se faire enrôler. Est-ce parce qu'ils attachent un intérêt particulier à ces élections de cette année?
Bon, la motivation première, c'est le devoir citoyen de tout et chacun. Nous sommes Centrafricains à part entière, même si nous vivons très loin de la mère patrie. Nous, les Centrafricains, c'est pourquoi, tu vois, les gens sortir de gauche à droite, de différents États, pour venir se faire enrôler. C'est d'abord un devoir citoyen. Et également, c'est notre fierté d'appartenir à la République Centrafricaine. Vous savez, les élections, c'est là où on prend les grandes décisions de la vie de la nation. On prend la décision de confier la gestion du pays entre les mains d'un des fils du pays ou bien d'une des filles du pays. Et les Centrafricains vivant à l'étranger, ceux de la diaspora, font partie bel et bien Donc pour eux, c'est un grand enjeu de prendre part à cette prise de décision, de choisir celui qui prendra la destinée de la République centrafricaine pour les 5 prochaines années. Et depuis 1993, nous ne l'avons pas fait. Donc nous avons en quelque sorte laissé notre pays être dirigé par les autres sans pour autant qu'on ait notre mot à dire.
À cette étape de la chose, on peut confirmer que les Centrafricains des États-Unis vont réellement voter.
Conformément à la Constitution centrafricaine et au code électoral de la République centrafricaine, le premier tour de la présidentielle en République centrafricaine aura lieu le 27 décembre 2020. Donc, tout comme en République centrafricaine, nous aurons, je crois, 10 heures d'ouverture du bureau de vote. Donc, nous allons commencer probablement vers 8 heures pour finir à 18 heures. Et tous les Centrafricains à l'âge de voter, ayant déjà 18 ans révolus, viendront, ceux qui ont déjà, ceux qui se sont fait enrôler, viendront avec leur carte d'électeur pour prendre part au vote. Et nous allons en même temps prendre les résultats et les transmettre à Bangui pour qu'on puisse compiler le tout et proclamer les résultats finaux de la présidentielle.
Le rapporteur général des opérations d'enrôlement des Centrafricains de la diaspora, Jean-Désiré Mbatangombe. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis sont des amis de longue date de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. S'exprimant par vidéo lors de la réunion annuelle États-Unis-ASEAN des ministres des Affaires étrangères, le secrétaire d'État Mike Pompeo a dit que nos visions pour le futur de la région Indo-Pacifique sont étroitement liées. Les États-Unis sont engagés vis-à-vis de la centralité de la ASEAN dans la région Indo-Pacifique et pour soutenir la prospérité de nos partenaires de la ASEAN, a-t-il déclaré. Nous fournissons 89 millions de dollars d'assistance à la lutte contre le COVID-19 dans les pays de l'ASEAN sur les plus de 20 milliards de dollars que nous avons alloués à travers le monde. Nous avons livré 850 respirateurs à l'Indonésie, 150 autres seront livrés au cours des 2 prochaines semaines et également 100 respirateurs aux Philippines comme promis. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé un certain nombre de nouvelles initiatives pour aider les pays de l'ASEAN à renforcer leur souveraineté et leur croissance. Premièrement, nous sommes satisfaits d'adopter le plan d'action ASEAN États-Unis pour la période 2021-2025 pour orienter notre engagement futur conformément à la vision de l'ASEAN concernant la région Indo-Pacifique avec les 5 pays du bassin du Mekong, une région de formidable importance pour la prospérité et l'unité de l'ASEAN. Nous sommes fiers également de mettre en œuvre la déclaration des leaders des États-Unis et de l'ASEAN sur le développement du capital humain et l'appuyer avec des nouvelles initiatives. Le gouvernement des États-Unis compte fournir 5 millions de dollars pour la nouvelle Académie des jeunes leaders du Sud-Est asiatique et l'Université Fulbright du Vietnam. Cela s'ajoute aux plus de 13 millions de dollars fournis pour les programmes du partenariat États-Unis-ASEAN pour les villes intelligentes, augmenter la productivité et améliorer les vies de peuples. Enfin, les États-Unis ont consacré de nouvelles ressources pour aider les pays de la CEI à faire face à la pandémie actuelle, de même qu'à celle à venir. Le système de coordination des urgences en santé publique de la CEI, avec un fonds d'un demi-million de dollars du département d'État, accroîtra la capacité de la CEI à répondre en tant que région aux crises sanitaires émergentes et, franchement, a aidé à prévenir la prochaine pandémie également. Nous avons créé un réseau des spécialistes de prévision sanitaire pour partager les bonnes pratiques dans la lutte contre le COVID-19 et sa gestion. Et notre département de la santé et du service humain veut également formaliser la relation avec le secteur de la santé de la CEI. Je suis fier de l'œuvre des États-Unis en soutien à nos amis de la région ASEAN, a dit le secrétaire d'État Pompeo. Vous pouvez compter sur nous.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix.